Vous êtes sur RTL.
Dans quelques instants, on va retrouver Laurent Gérard avec toute son équipe. Mais tout de suite, c'est la revue de presse, Amandine Bégaud. Et elle a une ce matin, Amandine, la journée mondiale de la solitude.
Oui, ces chiffres inquiétants à lire ce matin dans Ouest France. Écoutez bien, 66% des moins de 35 ans déclarent aujourd'hui se sentir seuls. 2 sur 3, on est à peu près à 40% pour le reste de la population française. C'est étonnant, qui plus est, à une époque ultra connectée où les ennemis se comptent par centaines, voire par milliers sur les réseaux sociaux. Eh bien non, dit ce matin la psychologue Monique de Kermadec, auteure d'Un sentiment de solitude. Le problème, explique-t-elle ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, c'est l'absence de liens profonds. Vous pouvez être très bien entouré par des personnes avec qui vous n'entretenez que des relations superficielles qui ne comprennent pas vos attentes ni vos inquiétudes. Vous restez ainsi, dit-elle, seul face à votre malaise. Sentiment d'autant plus fort chez les jeunes et même chez les très jeunes qui sont à un âge où l'on se construit, où l'on a besoin d'être rassuré. Et problème, explique dans Libération Djelloul Belbachir de l'association Astrée, c'est que plus on passe de temps devant les écrans et les réseaux sociaux, plus ce sentiment de solitude s'amplifie. C'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Le virtuel, dit-il, ne remplace pas le réel.
Et tout ça risque un jour de nous coûter très cher.
Oui, car la solitude, l'isolement n'ont pas seulement des conséquences sur notre santé psychique, cela impacte également notre métabolisme. C'est ce qui ressort de plusieurs études répertoriées dans un ouvrage qui fait cette semaine la une de l'Obs. Ces liens qui nous font vivre, c'est le titre de ce livre publié chez Odile Jacob. On y découvre notamment qu'on meurt 2 à 3 fois plus du cancer ou de troubles cardiaques lorsque l'on se sent délaissé. Et quand la maladie est là, eh bien l'entourage, ça on le sait, est primordial. Les auteurs citent ainsi cette étude réalisée il y a quelques années sur 2 groupes de femmes atteintes d'un cancer du sein en phase terminale. Celles qui bénéficiaient d'un groupe de parole régulier ont vécu, figurez-vous, 2 fois plus longtemps que les autres. La solitude, explique Christophe André et Rebecca Shankland, rend aussi plus vulnérable à des affections aussi bénignes qu'un rhume. Après avoir exposé 276 volontaires en bonne santé à ce virus, le chercheur Sheldon Cohen a découvert que celles qui avaient le plus de liens sociaux étaient les moins infectées. Et quand bien même elles l'étaient, eh bien elles produisaient moins de mucus. Notre espèce, l'espèce humaine, est éminemment sociale, rappelle le journaliste britannique Johan Hari. Nos ancêtres, explique-t-il, n'étaient ni plus rapides ni plus puissants que les animaux qu'ils affrontaient dans la savane. Ils ont survécu parce qu'ils coopéraient au sein d'un groupe. L'être humain, dit-il, a besoin d'une tribu. Si vous l'en privez, eh bien il deviendra fou ou il mourra. Le problème, explique toujours dans l'Obs les auteurs de ce livre, hein, ces liens qui nous font vivre, c'est que dans notre société, la dépendance aujourd'hui est devenue un gros mot. Elle est assimilée à une infériorité. Christophe André et Rebecca Shankland prennent ainsi un exemple très concret, celui de ces parents débordés par leurs enfants et qui n'osent pas réclamer de l'aide à leurs proches. Ils ont peur, disent-ils, de déranger, d'être jugés, ou encore ils se disent « j'ai choisi d'avoir des enfants, et bien maintenant j'assume ». Eh bien, ils ont tort. Tout ça peut déboucher sur une forme d'épuisement aux effets catastrophiques. On estime, disent-ils, que cela augmente par exemple de plus de 30% les risques de négligence et de violence envers l'enfant. Un enfant, par ailleurs, et ça aussi les études le montrent, se développe mieux sur le plan social et relationnel quand il est pris dans un réseau d'attachement constitué de plusieurs personnes. Autrement dit, confier de temps en temps votre enfant à d'autres, c'est bien pour vous. Et pour lui aussi, pensez aussi à écrire et pourquoi pas des cartes postales. Il y a encore un siècle, nous dit ce matin le journal de Saône-et-Loire, on en envoyait 6 milliards chaque année, rien qu'en France. On est à peine 200 millions aujourd'hui. Alors certes, les temps et surtout les moyens de communication ont changé. Malgré tout, voilà peut-être une illustration, une de plus de ce sentiment de solitude. L'histoire de la carte postale, écrit le journal, est en effet éminemment liée à celle des Français. Le bonheur, rappelez-vous, ne vaut la peine que s'il est partagé.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?
Tout va bien, vous n'êtes pas isolé?
Ah, pas du tout, non, moi tout va bien. Mais c'était un sentiment.
J'allais vous tendre la main.
Mais non, mais ici on est très bien entouré.
Ah, c'est bien ce que je pensais.